Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire l'enfant, et ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère dit : « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent : « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit : « Son nom est Jean. » Et tous s'étonnèrent. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous les habitants des alentours furent saisis de crainte et dans toute la région montagneuse de la Judée, on discutait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se demandaient « Que sera donc cet enfant ?» car la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, devant lui, tout au long de nos jours. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. » Or, l'enfant grandissait et devenait fort par l'esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël.
La période de l'Avent, c'est une préparation pour Noël. Et une question qu'on peut tout simplement se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de se préparer ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se préparer à Noël ? Après tout, vous avez reçu la même publicité que moi, non ? Dans les boîtes aux lettres ? Vous avez vu les mêmes affiches, les mêmes offres, les vitrines, les décorations et autres ? Vous avez probablement eu le même genre de discussion autour des projets, vous avez entendu la question que vous vous êtes posée, alors qu'est-ce que tu vas faire pour Noël, pour les fêtes ? Vous avez entendu, vous avez posé la question, vous avez probablement déjà fait des arrangements au niveau des cadeaux, de comment ça allait se passer. Est-ce qu'il est nécessaire de se préparer pour Noël ? Bien sûr que Noël est attendu. Et dans le même temps, qui d'entre nous s'attend à avoir une conversation détaillée sur Noël ? Un collègue ou un voisin qui vous appelle, dis donc, je viens de lire Michée 5, là, et j'ai une petite question sur... Bébém et Ephrata, pourquoi est-ce qu'il mentionne Ephrata ? Ça fait référence à quoi, ça ? Personne ne s'y attend. Et surtout pas votre voisin, surtout pas votre collègue. Personne ne s'attend à une conversation de ce genre. Et pourtant, c'est bien le sens au départ de toute la tradition qui vient ensuite. Mais la situation, c'est que la tradition prend le dessus sur le sens. C'est le cas pour Noël, mais ça peut être le cas aussi autour d'un moment important dans une vie, le moment d'une naissance. Pensez à ce qu'on fait naturellement, la tradition le veut. Vous allez, si quelqu'un dans vos proches a une naissance, il y a un SMS qui va être envoyé, il y a un email qui va être envoyé. Et s'il n'est pas envoyé, on se pose des questions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? La taille, l'heure de la naissance ? Tout ça, ça doit vous être communiqué. Enfin, vous n'êtes peut-être pas à cheval sur la tradition, mais On s'attend à certains détails. On s'attend aussi à ce qu'il y ait des félicitations. De l'autre côté, les parents, ils vous attendent. Hein. Ils attendent les félicitations, ils attendent les fleurs pour la maman, le bon rétablissement pour la maman, et puis les cadeaux par la suite. Et même si ce sont de bonnes traditions, ce sont des traditions. Le texte qu'on a lu il y a quelques instants, dans ce texte-là, on sent le poids de la tradition au moment de la naissance de l'enfant de Zacharie et Élisabeth. Ils ont un enfant, et parce qu'Élisabeth a longtemps été stérile, c'est l'étonnement, la joie parmi tous ceux qui en entendent parler. Et dans la culture juive, ce qui suit naturellement la naissance, c'est la circoncision pour un garçon, 8 jours, le 8e jour. Et à ce moment-là, c'est aussi le nom qui va être donné à l'enfant. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses se compliquent. Au moins de donner un nom, comme si ce n'était pas déjà assez difficile pour les parents, ce sont les voisins et la parenté qui veulent faire partie des décideurs au niveau du choix du nom. Sympa, hein? Dans une société communautaire comme celle-là, ça s'est déjà vu. On voit le livre de Ruth, par exemple. Les voisins, la parenté, s'attendent à ce qu'on donne le nom, non pas simplement d'un parent, mais de Zacharie, le père de l'enfant. L'équivalent junior dans d'autres pays. C'est junior. Mais pourquoi Zacharie? Peut-être parce qu'il y a de l'empathie pour lui. Après tout, il est handicapé, il ne peut plus parler. Il semble-t-il aussi sourd. On doit lui faire des signes pour communiquer avec lui. Et peut-être que le fait que son fils porte son nom sera comme une consolation pour lui. La réponse d'Élisabeth, elle est claire. Non, il sera appelé Jean. La réaction des voisins, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Autrement dit, ils n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Ils poursuivent. Et on voit effectivement qu'à l'époque, dans certains écrits, on donnait naturellement le nom d'un parent à un enfant. Ce serait l'équivalent pour nous aujourd'hui d'un deuxième prénom où souvent c'est tel ou tel grand-père ou grand-mère. Et pour être sûr qu'elle ne se trompe pas ou qu'elle n'est pas en train de jouer un tour à son mari, ils vont vers son mari, lui font des signes, essaient de se faire comprendre pour lui demander à lui quel est le nom de l'enfant, quel va être le nom de l'enfant. Zacharie demande une tablette et il écrit « Son nom est Jean ». Confirme la décision. Et là, il y avait déjà l'étonnement de la situation, du choix d'un nom différent, mais l'étonnement, il est encore plus grand lorsque Zacharie peut à nouveau parler. Il retrouve l'usage de la langue, de la parole. Et la transition, elle semble importante. Après tout, quelques lignes plus loin, c'est son cantique qu'on va entendre. Difficile de dire s'il l'avait déjà composé pendant ce temps de silence ou s'il le dit sur le moment, il se lance. Mais en tout cas, on va se poser 2 questions ce soir. Qu'est-ce que je retire de ce silence et qu'est-ce que je comprends de ces paroles? Qu'est-ce que je retire de ce silence? Qu'est-ce que je comprends de ces paroles? Déjà, la première question, qu'est-ce que je retire de ce silence? Je vais vous montrer la photo d'une haie. Lorsque je faisais un stage en enseignement, il y a longtemps, ça remonte à 10-15 ans, et en fait, j'aimerais que ce soit même plus loin. Mais pendant les stages de formation, on devait donc donner des cours aux enfants. Et j'avais un cours où je devais enseigner quelque chose en sciences naturelles sur la haie, tout ce qui habitait dans la haie. Il fallait découvrir que c'était un lieu d'habitation privilégié pour les animaux, les oiseaux en particulier. Et j'avais décidé que le premier exercice, ça allait être de se rendre ensemble à la haie et de prendre un temps de silence, d'observation autour de cette haie, d'écouter les oiseaux. Sur le papier, ça sonnait très bien. Simplement, quand on est arrivé, eux, ils se sont lancés sur la haie pour arracher les feuilles, pour discuter les uns avec les autres. Et il y en a un qui avait un sifflet et qui a réussi à rester caché tout au long, tout en faisant siffler régulièrement. Et à ce moment-là, on réalise que le silence, ce n'est pas si facile que ça à vivre, et pour les enfants en particulier. Ici, il y a un temps de silence dans la vie de Zacharie, un temps qu'on évalue à 9 mois. 9 mois, le temps de la grossesse de sa femme. Et un temps certainement qui n'a pas dû être facile à vivre. Après tout, il avait l'usage de la langue. Et là, pendant tous ces mois, il ne peut plus s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quelles sont les leçons qu'il va tirer de ce qui s'est passé? Dimanche dernier, Mathieu nous a aidé à méditer le cantique que Marie a adressé après l'annonce d'une naissance pour elle. Et dans sa manière de rédiger, Luc met en parallèle 2 naissances. La naissance de Jean et celle de Jésus. Comme Marie, Zacharie a l'occasion ici d'adresser un chant de reconnaissance à Dieu. Il y a des similitudes et des contrastes entre les deux. Et je vous invite tout simplement à relever rapidement, en revenant en arrière, quelques similitudes avec ces naissances. Luc raconte comment le même ange s'adresse aux deux, dans un premier temps à Zacharie, 6 mois plus tard à Marie, pour annoncer une naissance dans les deux cas. Tous les deux seront troublés par cette révélation qui sort totalement de l'ordinaire, ne s'y attendent pas du tout. Et la première annonce est adressée à Zacharie, donc à Marie et à Élisabeth. Il devra nommer son fils Jean, un nom qui signifie « Dieu fait grâce ». Et la deuxième annonce est adressée à Marie, qui est fiancée à Joseph. Elle devra donner le nom de Jésus à son fils, un nom qui signifie « Dieu sauve ». Et pour Zacharie et Élisabeth, le défi, c'est que le couple est âgé, ils n'ont pas eu d'enfant, Élisabeth est stérile. Pour Marie, il s'agit d'une femme vierge qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Ça, c'est pour les similitudes, mais il y a des contrastes aussi entre les deux, entre Zacharie et Marie. Pour le premier, c'est dans sa fonction de prêtre qu'il va avoir cette révélation, qu'il reçoit cette annonce. Pour la seconde, c'est alors qu'elle se trouve à la campagne, dans une petite ville peu connue, Nazareth. Mais le plus gros contraste se trouve dans leur réaction face à ce qu'il leur est dit. Il est dit de Zacharie qu'il n'a pas cru à cette annonce. Il n'y a pas cru. Alors qu'il est dit de Marie qu'elle a cru. Pour Jean, le signe que les choses vont se passer comme l'ange l'a annoncé, c'est qu'il va être muet jusqu'à l'accomplissement de cette parole. Le signe pour Marie, c'est que sa cousine Élisabeth aura bel et bien un enfant, est enceinte. De quoi faire réfléchir quand on y pense? Les pronostics, vous les auriez mis sur qui? Un prêtre qui se trouve dans l'expérience spirituelle la plus stimulante ou une femme de la campagne inconnue du grand public? Les prêtres, comme Zacharie, avaient la responsabilité de représenter le peuple devant Dieu. Mais pour Zacharie, la particularité du moment, c'est qu'il devra se rendre dans ce temple. Et vous imaginez l'ambiance et toute une multitude de personnes qui se trouvent là et qui va voir un prêtre rentrer dans ce temple. Et c'est une fois dans sa vie qu'on rentre dans le temple. Il a été désigné par le sort, on estime à 18 000 le nombre de prêtres, et il a été choisi par tirage au sort pour entrer ce jour-là dans la présence de Dieu, ce temple, symbole de cette présence de Dieu. Vous imaginez l'excitation qu'il doit ressentir, la préparation aussi à un tel événement, c'est une fois dans sa vie. Et il est précisé aussi qu'il doit se diriger vers l'autel où l'on offrait l'encens, symbole des prières adressées à Dieu. Et un détail important, c'est qu'il a prié, peut-être pas à ce moment-là, mais avant certainement, pour qu'il y ait un enfant dans leur famille. Il l'a demandé, cet enfant, probablement à de nombreuses reprises. Et dans ces conditions-là, avec les prières adressées à Dieu, un ange lui annonce qu'il aura bel et bien un enfant. Mais il n'y croit pas. Et là, pour les plus suspicieux d'entre nous, il faut noter qu'on qu'on a là toutes les dispositions qu'on voudrait avoir chez quelqu'un qui va devenir croyant ou qui va continuer à croire. Il y a cette aspiration, il y a ces prières. C'est un homme d'église, c'est un homme pieux. Et pourtant là, il ne croit pas. Zacharie, dans le récit, il n'est pas présenté comme le religieux arrogant, contrasté avec la femme de la campagne, mais qui croit. Ce n'est pas ça. Zacharie, il est présenté au départ comme un homme pieux, irréprochable, au chapitre 1, verset 6. Et même s'il est repris sévèrement au moment de son manque de foi, le constat de la fin de notre texte, c'est qu'on a bel et bien affaire à un homme qui est humble et attaché à Dieu. Et Luc est tout simplement honnête pour nous dire les choses telles qu'elles sont. Comme il le dit au début de son livre, il n'est pas là pour fonder un mythe. Il s'est soigneusement intéressé à ce qui s'est passé, informé sur ce qui s'est passé. Zacharie a manqué de foi alors qu'il venait dans la présence de Dieu. Et il faut le reconnaître. Il n'a pas cru aux promesses de Dieu. Mais il a appris par son silence. Qu'est-ce qu'il a appris ? Le nom qu'il doit donner à son fils, à mon avis, nous lance sur la piste de ce qu'il a appris. Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». Il s'est fait reprendre de manière appuyée par l'ange. Mais dans ce temps de silence, une grâce lui est faite. C'est quoi cette grâce ? C'est un peu comme si Dieu lui disait « Tu ne crois pas à ma parole ? Alors observe, regarde, constate si je suis fidèle à ma parole. » Il ne peut plus parler, semble-t-il plus entendre, mais il peut voir. Et effectivement, sa femme est enceinte. Et la grâce qui lui est faite, c'est de pouvoir mûrir et de méditer ce qui s'est passé. De voir cette parole de Dieu qui s'accomplit. Les dernières paroles qu'il avait prononcées sont des paroles de doute sur la possibilité d'avoir un enfant. Mais ce temps de silence lui a permis de comprendre la grâce d'un Dieu qui promet, malgré l'incrédulité ambiante, et qui accomplit ses promesses. Et la profondeur du cantique dit la valeur de ce temps de recul. Il a eu le temps de méditer. Une grâce qui est faite dans son cas, mais qu'il voit aussi d'une manière plus large pour la nation. Qu'est-ce que je retire de ce silence ? Même si nos situations, elles sont différentes de celles de Zacharie, il y a à mon avis un principe qui demeure. Est-ce que je vais saisir les occasions données par Dieu pour mûrir cette foi en lui, constater qu'il est effectivement un Dieu de grâce et un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Prenez par exemple cette promesse de 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'il y aura confiance en cette promesse? Ou il ne sait pas vraiment prendre soin de moi? Il n'arrive pas vraiment à voir ce que je vis. Il n'arrive pas réellement à saisir les implications de ce qui se passe. Est-ce qu'on va constater avec le temps, avec ces temps, ces occasions de silence, d'écoute, d'observation, qu'il est fidèle à ses promesses? Prenez une autre promesse. Promesse de pardon. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et pourtant, combien de fois j'ai une erreur particulière à l'esprit, quelque chose que j'ai fait ou dit à quelqu'un, et ça revient constamment, et c'est comme si le pardon qu'il m'accordait n'était pas suffisant, comme si il fallait revenir dessus, faire quelque chose à ce sujet. Est-ce que je vais faire confiance à sa promesse ? Croire qu'il pardonne. Zacharie a appris du silence. Et il ne s'est pas dit, par exemple, mais attends, moi je suis j'ai quand même un peu d'expérience dans la foi chrétienne, j'ai un certain âge, je suis prêtre, J'ai même la réputation d'être irréprochable. Non, ce qu'on voit plutôt dans son attitude, c'est que malgré son âge, il est prêt à se remettre en question. Il est prêt à être à l'écoute. Il est prêt à reconnaître qu'il aurait dû avoir confiance en Dieu et en ses promesses. Et la beauté que Zacharie manifeste, c'est qu'il a bel et bien retiré quelque chose du silence. Il va rendre grâce à Dieu, le remercier. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que cet enfant va devenir? Et dans son chant, son cantique, on va se poser cette question. Qu'est-ce que je comprends de ces paroles? Qu'est-ce que je comprends de ces paroles? Déjà, qu'est-ce que Zacharie a compris? Il commence, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption. » Benedictus, c'est le nom donné à ce cantique. Ça vient du premier mot, finalement, en latin, dans la Vulgate, la traduction en latin. Et ça dit la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Dieu. L'intervention, la rédemption dont il est question, sont d'autres termes pour nous parler du salut que Dieu opère. Un terme, le salut, qui lui aussi revient à plusieurs reprises. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de chaque élément, il est assez détaillé ce cantique. Mais simplement, je vous invite à constater deux promesses, deux facettes en lien avec ce salut, deux vocations. Déjà deux promesses. De temps à autre, il y a des promesses qui prennent du temps à se réaliser. Vous pensez par exemple à une invitation pour un repas. Quelqu'un qui vous dit « on va vous avoir à la maison ». Ou alors une promesse pour des vacances ensemble. On va prendre des vacances ensemble. Et imaginons qu'il y a des difficultés légitimes qui font que ce n'est pas possible de faire ce projet de vacances ensemble. Mais elles se font ces vacances après 3 ans. Vous vous diriez là, ben la personne qui a fait cette promesse, c'est beau, elle tient sa promesse. Il y aurait comme un émerveillement de savoir qu'elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle a dit. Mais imaginez 5 ans après ou 10 ans après, parce qu'il y a cet engagement, il y a ce désir d'aller au bout. Dans les versets 68 à 71, Zacharie reconnaît que Dieu est en train d'accomplir les promesses qu'il a faites. Et la première a été faite quelques 1000 ans avant Jésus. Promesse faite à David d'un descendant sur le trône, d'un règne éternel pour ce descendant. Le règne de David avait entraîné déjà une délivrance pour le pays, une sécurité, une paix. Et il y avait cette attente relayée par tous les prophètes de l'Ancien Testament d'un roi qui allait venir et qui allait instaurer une paix encore plus grande, un royaume éternel. Mais il y a plus, il y a une promesse plus ancienne encore. Dans les versets 72 à 74, une promesse vieille de quoi ? 1800, 2000 ans, la promesse faite à Abraham. Dieu avait promis à Abraham une descendance nombreuse, un territoire, une relation privilégiée avec lui. Et avec la venue de Jésus, il y a cet accomplissement magnifique d'un royaume qu'il inaugure. On entre dans le royaume en ayant foi en Jésus et on entre directement dans une relation privilégiée avec Dieu. Dans ce cantique, on trouve aussi deux facettes du salut. Et je vous suggère qu'il y a deux perspectives normales, je dirais, ou courantes en société par rapport au salut. Le premier cas de figure, ce serait de se dire un salut, mais attends, mais sauvé de quoi et sauvé pourquoi? Moi, j'aurais besoin d'être sauvé? Ça, ce serait peut-être la première réaction, mais ça paraît abstrait, ça paraît lointain. Je ne suis pas pire qu'un autre. Je n'ai pas fait des choses qui font qu'on doit me sauver. Un autre cas de figure, Ce serait la conscience d'une certaine fragilité, un besoin d'assurance, de pardon, un désir d'éternité aussi. Mais dans la manière de s'y prendre, ce serait, il va falloir que je fasse quelque chose pour que Dieu me l'accorde. J'ai besoin de lui, c'est vrai, mais dans la manière de m'y prendre, je vais m'assurer qu'il puisse me donner, me servir ce dont j'ai besoin. Et je ferai tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Mais ce qu'on trouve ici, c'est ni l'une ni l'autre. Dans un premier temps, Zacharie reconnaît le besoin d'une intervention de la part de Dieu. Et il parle d'une situation grave sur un plan politique. On était sous l'Empire romain. Besoin d'une délivrance des ennemis. Mais il y a plus profondément un besoin de pardon des péchés, verset 77. Et il y aura un besoin pour chacun de le reconnaître dans ce même verset. Il y a un besoin pour chacun de reconnaître la gravité de la situation. Mais il affirme aussi que le service et l'adoration de Dieu, ce ne sont pas le moyen d'obtenir le pardon, ils sont le résultat. Regardez par exemple les versets 74 et 75. Après la délivrance, on entend ces paroles, de sorte que de pouvoir, sans craindre, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Il ne s'agit pas d'obtenir de Dieu, par le service, ce que l'on veut, obtenir son pardon, ses faveurs, ses interventions, mais c'est plutôt de recevoir son salut et ensuite de pouvoir répondre de manière appropriée. Et ça correspond à ce qui s'est vécu dans l'Exode, par exemple. Cette compréhension du salut, elle est liée, pour terminer, avec une double vocation, celle de Jean dans les versets 76 à 78 et celle de Jésus dans les versets 78 à 79. Quelle va être la vocation de Jean ? Sa vocation sera d'être prophète du Dieu Très-Haut. Il y a eu 4 siècles de silence, 4 siècles où on ne trouve pas la trace de prophète. Et comme dans sa propre vie, Zacharie peut parler d'une interruption de ce silence, la parole de nouveau va être donnée. Il sera prophète du Très-Haut, ce Jean, ce fils. Et il dit ensuite, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Un des rôles de Jean, on le voit par la suite, c'est d'inviter les gens à la repentance, à un changement radical. Et le symbole de ce changement, c'est un baptême, symbole d'une purification nécessaire. Maintenant, de nouveau se pose la question, est-ce que la situation est si grave qu'on ne pense, qu'on nous l'affirme ici? Est-ce que c'est vraiment nécessaire un changement aussi radical dans ma vie, dans votre vie? Il est temps de parler de la deuxième vocation, celui qui incarne ce salut. Celui qui incarne ce salut, celui vers qui Jean pointe, est décrit en termes de lumière, de soleil. Imaginez la situation qui est décrite dans ces versets. Vous êtes dans un groupe de voyageurs, vous avez entamé une longue marche avec une destination en vue, une ville probablement. Mais la nuit tombe petit à petit, vous y voyez de moins en moins. Et là, vous commencez à réaliser qu'il y a un enjeu quand il n'y a plus de lumière, c'est la sécurité qu'on perd. On est à la merci des bêtes sauvages, on est à la merci de bandits de grand chemin. À un moment ou à un autre, on pourrait avoir la mauvaise surprise d'être saisi, pris. Et on s'assied parce qu'on n'a plus de direction claire. On est dans cette insécurité, cette peur, ce désespoir nous gagne petit à petit. Comment ça va se passer? Quel avenir est-ce qu'il y a? Et là, petit à petit, le soleil se lève. Petit à petit, la lumière revient. Un soleil qui va briller d'en haut, qui va faire luire et nous montrer tout ce qu'il y a autour de nous, ce qu'il y a en nous aussi. Cette lumière que Jésus incarne, elle va pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Il se décrit dans l'évangile de Jean comme la lumière du monde qui éclaire tout homme. Quelle était la situation au temps de Zacharie? On l'a dit, c'était le temps de l'Empire romain. Israël était sous cet empire. Et malgré tout ce que Dieu avait fait dans le passé pour les délivrer de l'esclavage en Égypte, quelques 14 siècles plus tôt, le constat général, c'est un déclin de toute la nation qui n'arrive pas à vivre à la hauteur de son alliance. L'histoire d'une nation qui ne sait pas faire preuve de foi et d'obéissance à Dieu. Malgré l'alliance, des exils successifs, des invasions étrangères, et la situation présente dit l'avenir incertain, l'insécurité. Et qu'est-ce que je vais en retirer de ces paroles? Qu'est-ce que j'apprends de ces paroles? Qu'est-ce que je comprends de ces paroles? Et si je réalisais que chaque temps de crise est la crise que nous vivons actuellement? Sur le plan financier, sur le plan politique, les incertitudes, sur un plan personnel aussi. Si chacune de ces crises était l'occasion de réaliser qu'au cœur du problème, c'est un problème de cœur, que le problème le plus fondamental pour chacun d'entre nous, c'est notre hostilité vis-à-vis de Dieu ou notre incapacité à avoir foi en lui et à lui obéir. Une offense à sa personne et à son œuvre, à ses promesses. Mais quelle beauté de voir que dans ce contexte-là, dans ce contexte sombre, obscur, incertain, où la paix manque, c'est là qu'il a fait briller le soleil. C'est là que Jésus est venu pour donner une direction, une issue, une paix et une sécurité. Il l'a incarné par sa personne et il nous invite à la foi en lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander pardon pour toutes nos incrédulités. Et tu vois la situation de notre cœur, notre besoin, ne serait-ce que de reconnaître cela, de reconnaître que nous avons besoin d'un pardon des péchés, de nos péchés, pas simplement ceux des autres. Et nous te remercions pour celui qui a brillé par sa personne et par son œuvre et qui nous accorde la paix, la sécurité, une direction. Et nous te louons pour lui, au nom de Jésus. Amen.